Aujourd'hui, on accueille la Ligue contre le cancer. On a le docteur Philippe Rémuson, président du comité des Landes, qui vient nous voir régulièrement. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, écoutez, je vais le mieux possible, vacciné récemment.
Voilà, et moustachu.
Et moustachu, mais oh oui. Ça se voit pas à la radio.
Ça se voit pas à la radio, mais on va en parler quand même, on va en parler. Ça s'entend peut-être, je sais pas, mais on va en parler parce que ça fait partie de l'histoire un petit peu. On va passer une heure ensemble, on va parler de... Donc il y a le mois sans tabac en ce moment et on se focalise aussi sur les cancers masculins. Voilà, on va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est parti. Alors vous parliez de vaccins, vous parliez sur la grippe je suppose.
Oui.
C'est la période pour le faire, là. Ça démarre depuis pas, il n'y a pas très longtemps.
Surtout pour les personnes fragiles comme moi.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en tout premier lieu, on va rappeler quand même comment se finance la Ligue contre le cancer. Parce que c'est vrai, quand on va sur le site, on se rend compte, c'est vrai qu'il faut donner. Hein, l'argent vient comment, la Ligue contre le cancer ?
Alors, essentiellement, la Ligue fonctionne grâce à la générosité, la générosité des donateurs. Et donc, j'en profite pour remercier toutes les Landaises et les Landais qui nous font confiance et donnent chaque année régulièrement, ce qui nous permet de remplir nos missions.
Mmh. Bien sûr. Ouais.
Mais il n'y a vraiment que le don et que la générosité qui nous permet de fonctionner.
Dans les dons, il y a aussi les legs, je suppose, ça se fait aussi ?
Alors, bien sûr, il y a des legs, malheureusement pas assez, d'autant plus qu'il y a quand même maintenant la tendance à avoir plusieurs associations sur un même leg, par exemple.
Et puis,
tellement d'associations qui font appel à des legs que, évidemment, la Ligue, et notamment dans les Landes, en souffre.
Oui.
Voilà. Alors, je ne peux pas faire d'appel à ça.
Hein. Oui, ce serait pas terrible. Non. Mais par contre, oui, j'ai vu qu'il y a un petit questionnaire à remplir quand on veut donner. Mais est-ce que vous avez un retour par rapport à... C'est souvent des gens qui ont eu un lien avec le cancer, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a eu, qui s'en est sorti, ou quelqu'un qui est encore malade, ou quelqu'un qui a perdu un proche. C'est plutôt ce genre de là qui...
C'est souvent cela, et la plupart du temps, c'est ça. Mais c'est aussi parce que c'est une cause reconnue et une association d'utilité publique. Par contre, ces dernières années, en 2024 et 2025, on a lancé un petit peu une modernisation du don par le face-à-face et pour recruter des donateurs un peu plus jeunes et plus fidèles mensuellement, avec le prélèvement automatique notamment. Okay. Et la Ligue était assez en retard de ce côté-là.
Mmh. Oui, bon, avec toujours cette histoire d'une association... avec 60% la possibilité de défiscaliser 60% de ce qu'on verse, c'est ça, il me semble.
Encore.
Oui.
Encore.
Voilà.
En sachant que la Ligue a évidemment le label don en confiance.
Oui, d'accord. Bon, ça, c'est important. Alors oui, donc, qu'est-ce qui vous amène de beau, hein ? De beau, jamais, c'est jamais pour des bonnes choses que vous venez, hein, si je puis me permettre. bon, j'exagère.
Ah, la prévention, c'est une bonne chose.
Si, la prévention, voilà. C'est vrai. C'est vrai que c'est le plus important, en fait. Hein.
Oui.
C'est le plus important. Alors, on va commencer par parler de cette satanée cigarette. Alors, on va dire, c'est le mois sans tabac, donc il y a des dispositifs, il y a des petits challenges, etc. Mais alors, la cigarette, ça fait beaucoup de dégâts, la cigarette.
Oui.
Et pas que le cancer, d'ailleurs. Hein, dans la liste, les maladies cardiovasculaires, les AVC aussi.
Bien sûr.
Donc, le cancer. Mais alors, question un peu... Voilà, je sais que vous êtes médecin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le fumer donne le cancer, en fait ? C'est quoi les mécanismes ? Bien sûr, en restant très simple.
Hein. Ah, alors,
c'est le goudron qui va dans nos poumons,
voilà.
C'est ça ?
Alors, il y a d'abord le caractère addictif du tabac,
oui. Hein,
par la nicotine. Mm. Donc, c'est une addiction, une maladie.
Ça, c'est une addiction. Oui.
Par contre, il y a en effet dans la fumée de cigarette tout un tas de cancérogènes. Je crois qu'il y en a 70 au total.
Sympa.
Et qui peuvent donc agir sur l'arbre bronchique, la sphère ORL, la vessie, etc. Et en général, le tabac est impliqué dans 17 localisations de cancer, y compris le sein, par exemple. On sort d'Octobre Rose, et ça ne se sait pas trop, mais le tabac est impliqué dans le cancer du sein aussi.
Ah oui.
Et puis, il y a des mélanges détonnants entre alcool et tabac aussi,
certaines
localisations.
Ah oui. Alors, mais les phénomènes mis en jeu, c'est quoi ? C'est une sorte d'inflammation qui cause...
L'inflammation de la muqueuse bronchique, des mutations dans les cellules induites par les cancérogènes.
Et les produits chimiques.
Voilà.
Comme il y a des médicaments qui sont tératogènes, enfin, qui causent des dégâts à l'ADN, etc. Il y a certaines substances chimiques qui le font dans Sachant qu'on se bat un petit peu contre le lobby, hein, parce qu'ils mettent dedans des choses pour rendre un peu plus accro quand même, comme l'ammoniac, ce genre de choses.
Oui, mais ça, ils savent faire, hein, oui. Bien sûr. Par contre, il y a une tendance quand même chez les 18-25 ans à une diminution de consommation du tabac en espérant qu'il ne se tourne pas vers autre chose.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, alors c'est vrai que la cigarette électronique a pris de la part de marché de la cigarette normale, on va dire.
Oui.
Un petit peu. Voilà.
Alors, initialement... c'était pour la bonne cause aussi, hein, essayer le sevrage par la cigarette électronique.
Oui.
Mais en fait, quand on ne fume pas, la cigarette électronique peut être inversement un pied à l'étrier pour...
cheval de Troie de la cigarette. Hein.
Voilà. Hein.
Oui.
Et puis, pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur la cigarette électronique pour dire que ce n'est pas néfaste à la santé. Il y a quand même plein aussi de substances cancérogènes dans les liquides de recharge de la cigarette électronique.
Ouais. De toute manière, dès qu'on a une activité régulière qui est non naturelle, on peut... imaginez qu'il peut y avoir des petits soucis qui vont apparaître.
Bien sûr. Et on vit dangereusement.
Ah oui, ça c'est vrai. Et puis il faut rappeler aux gens, je crois que tout le temps les gens parlent de nicotine. La nicotine, c'est celui qui rend addict, mais c'est pas la substance qui elle-même est cancérigène.
Non. Non, c'est ça, les vapeurs, ce qui est contenu dans la fumée, les goudrons, les benzènes, etc.
Oui, les beaux produits chimiques qui ne devraient pas rentrer dans nos poumons.
Voilà. Et qui rentrent peut-être autrement que par la cigarette aussi.
Oui,
mais ça, on ne peut rien faire contre pas grand-chose.
Pas grand-chose, oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, ce mois sans tabac, alors donc il y a une. Voilà, vous avez, comme je disais, on le verra la photo, les auditeurs verront la photo. Vous avez une moustache, ce qui n'est pas à votre habitude. J'ai cru qu'ils m'avaient envoyé votre frère jumeau, en fait. Non, c'était bien vous.
Non, ils ont refusé de me cloner.
Oui, voilà. Parlons de cette moustache. De quoi
Alors, le mois de novembre, c'est à la fois le mois sans tabac et c'est aussi le challenge des gentlemen à la Ligue, c'est-à-dire un focus sur les cancers masculins.
Ouais.
Et la moustache est associée depuis le mouvement Movember,
qui était
moustache et novembre.
Et oui.
Mais à la Ligue, nous sommes plutôt mois des gentlemen, ça fait un peu snob, mais ça plaît.
Ouais. D'accord. Alors, ce mois sans tabac, c'est quoi ? Alors, vous m'avez parlé d'un kit. Il existe un kit ?
S'inscrire sur le site de la Santé publique France au mois sans tabac, c'est obtenir un kit pour pouvoir arrêter, des conseils. Et il est démontré que arrêter un mois, ça donne 5 fois plus de chances de s'arrêter définitivement. Donc, c'est vraiment le moment quand on a décidé de s'arrêter parce que quand même... c'est ça qui va être le moteur, hein, la décision de vouloir arrêter le tabac.
Oui.
Et la majorité des fumeurs, d'ailleurs, expriment cette volonté de s'arrêter, mais bien évidemment ont besoin d'aide.
Mm-hmm.
Et je pense que le mois sans tabac et l'inscription au mois sans tabac peut représenter une aide.
Oui. Alors, il ne faut pas que les gens considèrent forcément comme un échec de reprendre à fumer au bout d'un moment, parce qu'en fait, je crois que les statistiques montrent que plus on essaie d'arrêter, mieux, à force, on finit par y arriver.
Oui, quand même, je pense que mettre le pied à l'étrier pendant un mois, ça aide beaucoup à arrêter définitivement. Alors malheureusement, c'est vrai qu'il y a des rechutes, on va dire, un peu comme dans les maladies, mais c'est une addiction. Donc, et puis, quelquefois, c'est quelque chose de très banal qui entraîne la rechute. C'est le copain qui offre une cigarette ou la fréquentation d'autres fumeurs et puis on repique au truc, quoi.
C'est vrai que les copains qui ont vu la cigarette, moi j'ai connu ça et arrêté de fumer il y a bien longtemps. Des fois, il y en a qui mériteraient des claques. Hein.
Oui, ils n'aident pas forcément.
Ben ouais, parce que c'est un peu comme si Satan se dressait devant vous et essayait de vous tenter alors que vous vous battez contre vous-même parce que c'est difficile d'arrêter de fumer.
Bien sûr. Alors, le mieux, c'est que de faire appel à un professionnel, que ce soit le médecin ou un tabacologue, par exemple, ou des infirmiers en tabacologie, maintenant, qui peuvent prescrire des substituts nicotiniques.
Oui.
Et c'est ça qui permettra de se sevrer de l'addiction et donc des substances cancérogènes, en sachant qu'il faut quand même faire attention parce que les fumeurs qui disent « mais moi, je les roule », ben quelquefois, la cigarette roulée représente 5 fois plus de danger qu'une cigarette. Cigarette elle-même.
Eh ben, une cigarette roulée sans filtre, de base, on va dire, elle arrête moins de goudron et de cochonneries qui vont dans le sang. Hein. Eh oui, forcément. Ouais. Ouais. Et Est-ce qu'il y a des... Vous parliez de substituts, alors c'est quoi? C'est les chewing-gums, par exemple, qu'on connaît, c'est
oui,
de la nicotine.
Les patchs, surtout. Ouais. Les patchs, surtout.
Alors, des fois, on ne les supporte pas.
Oui.
Parce que moi, je sais, je suis intolérant à la colle des...
D'accord.
Voilà, non, ça me fait des brûlures. Donc, je n'ai pas pu utiliser les patchs pour arrêter de fumer personnellement. Voilà.
Enfin, il y a tout un arsenal quand même qui permet. Et puis, la volonté, et puis peut-être des pratiques non médicamenteuses qui peuvent aider à arrêter le tabac. Mais déjà, je pense qu'il y a la volonté. Et puis peut-être regarder ce que ça coûte par an, par exemple,
admettons, je ne sais plus à combien le paquet de cigarettes, mais 10 euros multiplié par 365, ça fait 3600 euros par an. Et à ce prix-là, on ferait mieux de se payer des vacances plutôt qu'un cancer. Hein.
Voilà.
Hein, voilà. Ça, c'est un argument. Si vous avez besoin de punchline pour vos prochaines campagnes, je suis là.
Alors quand même, le tabac, c'est 75 000 décès par an, que par cancer.
Oui, oui.
C'est surtout 68 000 cancers par an nouveaux à cause du tabac. Et quand même, la majorité, c'est 45 000 décès par cancer. Et je préciser que ce n'était pas seulement le cancer du poumon.
Oui.
Alors bien évidemment, vous avez toujours les exceptions qui confirment la règle en disant « moi, je n'ai jamais fumé, moi, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait là, et j'ai quand même un cancer
». Bah oui,
mais enfin, il y a quand même 40% des cancers qui sont évitables avec...
Le comportement, des
facteurs comportementaux sur lesquels on peut agir,
bien
la
sûr.
Sédentarité, le tabac, l'alcool, etc.
Oui.
Et il y a d'autres facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, notamment l'âge, par exemple.
La génétique, on pourrait faire non plus.
La génétique, voilà.
Très bien, on va faire notre première pause et on va écouter un petit peu de musique. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Et c'est reparti avec Philippe Rémusot, président du comité des Landes, la Ligue contre le cancer. Donc on va finir un petit peu sur la cigarette. Il y a des actions dans la région qui ont lieu?
Alors nous, on a des actions toute l'année, notamment dans les collèges avec un escape game tabac qui séduit assez bien les élèves de 5e, en général 5e, 4e. Et des interventions avec des stands déclic, justement pour faire la promotion du mois sans tabac et justement donner le déclic aux gens de s'inscrire à ce mois sans tabac pour essayer d'arrêter. On a aussi des manifestations, on va dire, avec plein de guillemets festives, un peu à l'image d'Octobre Rose avec ce Challenge des Gentlemen. On aura le 16 novembre le Run and Bike à Souston qui a été un des premiers à adopter le terme de challenge des gentlemen à la Ligue. Et alors ça, j'ai dérivé sur les cancers masculins, excusez-moi.
Oui.
Sur les mois sans tabac, on a des stands qu'on va tenir et puis on fait la promotion de l'arrêt du tabac, bien évidemment, chaque fois. On reparlera des cancers masculins après, excusez-moi.
Bien sûr, non.
Voilà.
Bon, de toute façon, ça fait partie. Les hommes fumaient plus que les femmes habituellement, mais ça s'inverse un
petit peu. Oui, malheureusement, le cancer du poumon notamment est en progression chez les femmes alors qu'il est en régression chez les hommes.
Bon.
Voilà.
Bon, on va pas dire qu'on se réjouit d'un côté, mais
non,
c'est pas terrible ça.
Non.
Mais voilà,
parce que c'est de nombreux décès hein, quand même.
Oui, après c'est parce que le comportement de vie des femmes a dû se rapprocher de celui des hommes. Donc du coup, doivent fumer plus, boire plus.
Une certaine égalité qui n'est peut-être pas du même.
Non, c'est dommage. C'est vrai que celle-là, on ne la recherchait peut-être pas. Oui. C'est vrai. Alors, et puis aussi, alors, le dépistage. Le dépistage, il n'y en a pas 10 000 méthodes en fait, pour faire un dépistage.
Alors... En matière de
poumon, en tout cas.
De cancer du poumon, je pense que ça sera le prochain dépistage organisé par rapport aux trois qui existent déjà, sein, colorectal et utérus, col de l'utérus. Et ça se fera très certainement avec des scanners basse dose pour pas irradier trop les gens et dans des populations cibles. Il y a des essais, des études en cours justement pour avant de mettre en place ce dépistage.
Oui. Voilà. Donc ces scanners basse dose, ça veut dire qu'ils envoient moins de radiation, parce qu'on sait que les radiations, c'est quand même pas terrible.
Voilà.
Mais comment est-ce que ça fonctionne quand même? C'est comme si on a une image avec moins de contraste, on voit moins bien et on refait un traitement.
Alors en fait, comment c'est des scanners déjà pas injectés en général, et puis qui envoient plus de rayonnement et qui permettent de caractériser un petit nodule, de le surveiller évidemment si on en voit un, et s'il grossit ou si on arrive à avoir évidemment la preuve que ce nodule est cancéreux, de l'enlever. Oui. Et l'enlever, c'est déjà le guérir.
Oui.
Ça fait un peu comme pour le cancer colorectal, si oui. on enlève un polype.
Par oui, c'est vrai que l'examen pour le cancer colorectal est lui-même correctif. Hein, c'est-à-dire oui, que...
Ça peut l'être, en tout cas.
Oui, mais oui, c'est-à-dire s'il y a quelque chose, on enlève les petits polypes en même temps qu'on regarde, et du coup, ça fait quand même... c'est ça de gagner. Alors, mais ce dépistage, il s'adresse à qui? Comment
Alors, pour l'instant, il n'est pas en place.
Oui,
il n'est pas en
pas
place.
Se faire passer des,
non, je pense qu'il y aura des populations sélectionnées avec des maladies chroniques du poumon et ou les fumeurs. Voilà. Donc,
c'est quoi? C'est l'autorité de santé qui va venir vers nous, qui va nous dire, ben, monsieur, vous avez le bon âge, la bonne tranche de risque, c'est le moment de faire quelque chose? Comment ça se
Alors, l'HAS va donner des conseils sur la mise en place, mais par contre, c'est en général maintenant la Caisse primaire d'assurance maladie qui s'occupe des invitations au dépistage.
Oui, c'est comme pour le colorectal, le courrier qu'on reçoit.
Voilà,
tout ça.
Voilà. Ça sera certainement sous cette forme-là. Je ne peux pas savoir exactement.
Ouais. Bon, je ne sais pas si on aura l'occasion
de se revoir. Les cartons.
On aura l'occasion de se revoir à ce sujet, je suppose, quand ça va démarrer la campagne.
Hein. Voilà.
Voilà, c'est un peu votre cœur de métier.
Oui.
La prévention, on sait que le sport, c'est toujours, on va dire, le médicament le moins mauvais, avec le moins d'effets secondaires et qui prévient le plus de maladies. Hein.
Ben c'est surtout, ça prévient la sédentarité et donc ça prévient l'obésité, qui est un facteur de risque.
Voilà.
Le surpoids, qui est un facteur de risque majeur de cancer.
Voilà, c'est ça. Alors donc, mais pour les cancers aussi, il y a un podium. Hein, le cancer masculin, notamment, celui qui est sur la première place du podium, c'est la prostate, en fait.
Oui, parce que là, j'ai dérivé tout à l'heure, mais novembre, c'est le mois sans tabac, mais c'est aussi à la Ligue, le mois où le challenge des gentlemen qui veut se démarquer un peu de Movember, qui nous vient d'ailleurs, donc où on fait, après avoir fait la promotion pendant tout le mois d'octobre de la prévention et du dépistage du cancer du sein et des cancers féminins, ces messieurs étaient un peu jaloux, donc ils ont revendiqué en novembre qu'on parle un peu d'eux, et notamment des cancers spécifiquement masculins. Alors, le premier, c'est le cancer de la prostate en fréquence. Ça touche plus de 60 000 hommes par an. Donc, c'est à peu près équivalent à ce qu'est le cancer du sein chez les femmes. Le principal facteur de risque, c'est l'âge, hein, quand même. Même s'il y a des cancers de la prostate qui surviennent assez jeunes, mais qui sont en général dans un contexte ou familial ou génétique, à plus haut risque, avec quand même moins de décès que pour le cancer de la femme, puisque c'est 9000 décès par an, et souvent des cancers qui sont dits de bas grade et pour lesquels, quelquefois, même ayant diagnostiqué ce cancer, on opte pour la simple surveillance armée.
D'accord, parce que des fois, il se développe lentement, suivant l'âge, etc. Le remède serait pire que le mal, des fois, donc il vaut mieux ne rien faire.
Donc, ne rien faire, mais surveillance armée.
Bien sûr,
c'est-à-dire qu'au moindre, à la moindre alerte, à ce moment-là, on fait. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui rentrait dans les mœurs de faire de la surveillance pour des cancers de bas grade, ce qui n'est pas le cas pour les cancers de plus haut grade.
Alors moi j'ai une petite question piège, alors parce qu'on en parle des fois.
Il en faut une par émission.
plus d'une même, je peux. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'hommes ou des femmes qui entendent parler, mais la prostate, cet organe, il se situe où et à quoi il sert?
Alors la prostate, ça se situe sous la vessie, ça entoure l'urètre, et c'est l'organe qui fabrique l'essentiel du sperme.
Voilà. Donc c'est un organe, c'est une sorte de réservoir, ça ressemble à quoi? Enfin, j'en sais rien, moi j'ai pas fait de physio. Donc
alors c'est une forme de poire à l'envers, on va dire,
à
la base de la vessie, effilée vers le bas.
D'accord.
Voilà.
Donc, alors le dépistage.
Alors le dépistage, il n'y a pas de dépistage organisé, il n'y a que des recommandations que l'on peut faire, et ces recommandations sont le toucher rectal et un dosage d'une substance qui s'appelle le PSA, antigène spécifique prostatique en anglais, et qui n'est pas très spécifique d'ailleurs, ce qui fait qu'il n'y a pas de dépistage organisé. En effet, par exemple, un simple adénome un peu volumineux de la prostate peut cracher du PSA, c'est pas spécifique du cancer.
Ouais, d'accord,
et inversement, il y a des cancers qui ne crachent pas suffisamment de PSA, notamment les cancers indifférenciés, ouais. et on passe à côté du diagnostic. Alors, la recommandation, c'est à partir de 50 ans, un toucher rectal et un dosage du PSA. Et puis après, en fonction, c'est une consultation urologique en fonction des résultats, c'est un dialogue avec son médecin traitant. Au-delà de 70 ans, maintenant, il n'est même plus recommandé de faire des dosages de PSA trop réguliers. On peut passer à tous les 2 ou 3 ans. Ça a été débattu dans la littérature et ça n'est pas encore tout à fait établi que le dépistage systématique ou organisé du cancer de la prostate soit utile. La littérature n'a pas tranché pour l'instant. D'accord. Alors, il y a des situations un petit peu particulières avec évidemment l'exposition à des pesticides hein, qui a défrayé la chronique dans l'outre-mer. Il y a l'âge évidemment qui est un facteur de risque. Mais il y a aussi des cancers qui sont familiaux et voire avec une implication génétique et notamment des mêmes gènes qui sont impliqués dans le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire, le BRCA. Donc il y a quand même des familles à cancer de la prostate et là à ce moment-là ça survient plutôt à un âge avant 60 ans, voire très jeune, 45 ans. Et à ce moment-là, quand on a dans sa famille des cas de cancer de la prostate à cet âge-là, ou quand c'est avéré, évidemment, il faut une surveillance beaucoup plus étroite.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des médecins dont je crois que c'est la spécialité, c'est le cancer et l'étude de génétique, etc.
Alors, il y a des consultations d'oncogénétique qui sont effet très spécialisées pour beaucoup de cancers. Et il y a la génétique constitutionnelle, je dirais, donc on va rechercher si on a un gène qu'on peut transmettre, mais il y a aussi la génétique de la tumeur elle-même, parce qu'en étudiant la tumeur elle-même, c'est le cas pour le sein ou ça peut être le cas pour la prostate, on peut faire appel, s'il y a une expression d'un gène, de réparation notamment de l'ADN, à des molécules particulières qui luttent contre le déficit de réparation de l'ADN.
D'accord. Bon alors, il n'y a pas, il y a pas que la prostate dans la vie, on va rester un petit peu dans la même zone quand même, parce que les organes ils sont
alors,
ils masculins.
Alors, les cancers spécifiquement masculins, on va avoir le cancer de la prostate, mais aussi le cancer du testicule. Le cancer du testicule, c'est souvent des hommes beaucoup plus jeunes, puisque la moyenne d'âge pour la prostate, c'est 64 ans, et la moyenne d'âge pour le cancer du testicule, ça peut être 30 ans pour des cancers agressifs, et ça sera plutôt 45 ans pour la plupart des cancers du testicule qui sont des séminaux, mais qui se guérissent très bien. Alors après, ça n'est pas du tout les mêmes chiffres, c'est je crois de l'ordre de 2700 cancers du testicule par an, donc c'est pas la majorité. Et la plupart du temps, si c'est diagnostiqué assez tôt, ça se guérit dans 80% des cas. Et parce que c'est surtout des séminomes. Et même, on peut, la plupart du temps, médicalement, dire à quelqu'un qu'il est guéri de son cancer du testicule 2 ans après, ce qui est assez rare pour un cancer de déclarer une guérison au bout de 2 ans.
Oui, en général, c'est beaucoup plus lent. On est plus prudent. La guérison, c'est pas la même chose.
On est plus prudent, mais dans les séminomes qui sont de meilleurs pronostics, on peut prononcer ce mot-là assez rapidement.
D'accord. Alors, pour les testicules, il y a possibilité aussi d'auto-palpation.
Voilà, c'est de l'auto-examen. Alors, on va conseiller de prendre une douche bien chaude qui a la propriété de faire descendre le testicule dans le scrotum. Parce que quand il fait froid, il remonte.
Oui, ça, on le sait tous.
Voilà. Et donc, de s'auto-examiner régulièrement après cette douche chaude, parce que le principal signe d'un cancer du testicule, c'est en général une petite boule dans le testicule, une déformation. Ça peut être une inflammation du scrotum, ça peut être une augmentation de volume, ça peut être des veines apparentes parce que, sur l'abdomen parce que ça a été dévié par une masse, par exemple, sur les veines, notamment les veines de la sphère génitale. Voilà, donc il y a des signes indirects et puis le signe principal, c'est la boule dans la boule.
Et oui, c'est la boule dans la boule, c'est ça. Et bien sûr, dans le même coin, il y a aussi le cancer du pénis qui existe. Hein.
Alors voilà, ça va être spécifiquement aussi de monsieur. Plutôt... Alors celui-là, il est souvent lié au HPV.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc la première chose qu'on peut faire en prévention chez le gentleman, c'est le faire vacciner contre le papillomavirus.
Voilà, ce fameux papillomavirus. Voilà. Ouais.
Parce qu'il va créer des cancers ORL, il va créer le cancer du col de l'utérus, mais ça ne concerne pas monsieur. Oui. Cancer du pénis, cancer de la pour certaines pratiques sexuelles, cancer donc du pénis et cancer ORL aussi, beaucoup.
Oui, donc c'est vrai que c'est une maladie qui est associée à un virus.
Et on a quand même l'arme pour combattre ça. Et que quand même, c'est 31% des jeunes hommes qui sont intéressés par ces cancers-là dus au HPV. Donc,
oui, c'est vrai qu'au début, on en a parlé surtout des femmes, parce que c'était plutôt elles qui développaient des cancers dus à sa présence.
On s'est un peu focalisé sur le cancer du col de l'utérus qui... 3000 par an, mais il y a quand même 6400 cancers par an liés au papillomavirus, notamment ORL sans avoir bu ni fumé. Justement, on parlait de tabac.
Oui, voilà.
Donc, on se dit, tiens, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu et je fais un cancer ORL, qui est lié au papillomavirus.
Oui, et puis du coup, c'est presque comme si c'était un cancer contagieux, en fait, puisqu'on peut transmettre le virus à son partenaire, j'imagine.
Alors, il ne faut pas psychoter,
Non, j'exagère.
Alors, le problème, c'est qu'on est tous presque porteurs de ce virus-là, qu'on peut le transmettre, l'acte sexuel, mais même en dehors de l'acte sexuel, par des caresses intimes. Et donc cette transmission se fait très facilement, mais la plupart du temps, on va éliminer spontanément ce virus. Mais quelquefois, on ne l'élimine pas, il persiste, c'est pour ça qu'on fait un cancer du col de l'utérus, qu'on va faire un cancer de la verge, qu'on va faire un cancer ORL, parce que justement, on ne l'a pas éliminé. Mais la plupart du temps, on l'élimine spontanément. Donc, il ne faut pas trop psychoter.
Non, bien sûr. Mais
moi, je sais que je vaccine dans les collèges au nom de la Ligue.
À quel âge il faut vacciner ?
Alors, de 11 à 14 ans, pour l'instant, les vaccins proposés, c'est deux injections de 11 à 14 ans. Au-delà de 14 ans, c'est trois injections et on peut se vacciner jusqu'à 26 ans.
D'accord.
Même plus tard, même si on a déjà eu des rapports sexuels, si on est fait partie d'une population qui a des problèmes immunitaires, je pense aux gens qui ont le sida, on peut leur conseiller de se faire vacciner contre le HPV, par exemple.
D'accord. Très bien, oui, parce que c'est vrai que le sida abaisse énormément les défenses immunitaires.
Cette vaccination, c'est un premier acte. Et puis moi, je sais que je conseille quand même aux gens le préservatif après, bien évidemment, parce que si le préservatif ne suffit pas pour l'HPV, il suffit pour autre chose quand même. Les petits garçons, les adolescents, je leur conseille de faire attention aux autres maladies sexuellement transmissibles.
Ah oui, bien sûr.
Et aux filles, que ça n'empêche pas de se surveiller après. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, le garçon était le vecteur et le transmetteur du virus chez la fille.
Oui.
Et donc, d'où la politique de vacciner garçons et filles. Ce qui se fait depuis très longtemps dans certains pays comme la Suède, la Finlande ou l'Australie où on est arrivé à éradiquer certains cancers.
Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors, on n'en a pas fini avec les testicules. Il s'en sortira pas comme ça, le pauvre.
Oui, alors en effet, je voulais juste rappeler qu'il y a certains facteurs de risque. Et alors, je veux dire un mot barbare pour les auditeurs et les auditrices. La cryptorchidie. La cryptorchidie, c'est le testicule qui n'est pas descendu comme il devait le faire.
Crypto de cacher en grec.
Voilà. Ouais. Et qui est volontiers opéré, puisque plus on opère tôt, moins on a de risque, même si le risque n'est pas nul. Donc, c'est un facteur de risque particulier de cancer du testicule. Et puis le fait d'avoir fait un cancer du testicule d'un côté, c'est un risque d'en faire un de l'autre. Donc comme tous les organes pairs, il faut surveiller l'autre organe quand on a fait un cancer d'un organe pair. Je voulais juste rappeler ça sur le cancer du testicule et puis le fait que c'est l'auto-examen qui va permettre la plupart du temps de déceler ce cancer-là.
Bien sûr. Alors, les causes globales encore de tous ces cancers, c'est souvent la cigarette et l'alcool quand même.
Alors, la cigarette, notamment pour le papillomavirus, la cigarette est quelque chose qui empêche quelquefois d'éliminer facilement le papillomavirus.
Ah, d'accord.
Donc, il faut que ça se sache. Ça,
décidément.
Il y a des
bonnes raisons d'arrêter de fumer quand même.
Il y a des associations détonnantes. Voilà. Ouais. Donc, après, bon, le cancer du testicule ne fait pas partie particulièrement des cancers liés au tabac, hein, quand même. Hein, voilà. Il y en a assez, hein, 17 cancers qui sont liés au tabac, oui. Si on, là, notamment la sphère ORL, ça le multiplie. Hein.
Bien sûr.
L'œsophage, le poumon, la vessie, j'en passe. Après, les causes de cancer, ben, y a aussi l'environnement, et ça, on ne peut pas trop agir dessus, si ce n'est avec sa carte électorale.
Le législateur, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement, bon. C'est vrai.
Et
vrai.
Encore que.
Ben oui, voilà. On a des mauvaises surprises, des fois. Voilà. Tiens, ah non, bon, tant pis.
Mais ça, c'est tout à fait personnel. Hein. Ce n'est pas le président du comité qui parle. Là.
Oui, oui.
Voilà. Donc, ces cancers spécifiquement masculins, novembre y est consacré. Mmh. On a plusieurs manifestations qui se mettent en place dans les dans différents villages. Souston fait son run and bike. Alors, c'est des couples de coureurs et cyclistes qui, en général, ont un parcours assez difficile, notamment dans le sable. Mmh. Mais c'est une manifestation très sympathique qui se fait depuis plusieurs années. C'est les premiers à avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, adopté le terme de challenge des gentlemen. Mmh. La ville de Lynx va faire aussi une manifestation pour le challenge des gentlemen sur les cancers masculins. Tos s'est aussi positionné, donc ça gagne un peu du terrain, évidemment, par rapport à Octobre Rose. Mmh. Mais fin octobre, il y a eu des gens qui ont fait du rose et bleu. Hein,
oui.
Beaucoup, notamment Pontonx, par exemple, a fait rose et bleu.
Je crois qu'à La Benne aussi, il y a du rose et du bleu. Hein,
alors,
La
Benne fait aussi, et notamment nous a conviés pour qu'on parle des cancers masculins aussi, notamment, je pense, chez le personnel, essentiellement, parce que la population de La Benne est quand même un peu âgée, bien que ça peut concerner les cancers de la prostate. Mais
oui, bien sûr. Oui. Et puis, alors, bon, c'est vrai que les hommes, on prend un petit peu moins soin de nous, des fois, que les femmes. Et je crois qu'on le paye des fois aussi par rapport à ça. Hein.
Alors, c'est le cas notamment pour le dépistage du cancer colorectal, qui est le seul dépistage organisé pour l'homme. Hein, donc, il faut y revenir. Oui. C'est vrai qu'on prend moins soin de nous. Je pense que ces dames prennent plus soin de nous que l'inverse, éventuellement.
Oui. C'est,
voilà.
C'est possible.
Donc, heureusement qu'elles sont là aussi. Pour, elles peuvent participer à certains diagnostics, notamment pour le cancer du testicule.
C'est ça. Mais nous, pour le cancer du sein, et donnant-donnant, on palpe, elle palpe.
Voilà.
Moi, ça me semble un échange tout à fait.
Ça peut arriver.
Voilà.
Voilà. Oui, les hommes en général sont moins sensibles à la prévention et au dépistage, malheureusement.
Ben oui. Et malheureusement, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, les dames nous rattrapent hein, sur plein de choses, les mauvaises choses. Hein,
surtout sur le tabac. Sur le tabac.
Ouais, voilà. Donc on voit quand même que l'aspect comportemental et tout ça, vraiment, ça joue beaucoup.
Ben oui, il y a des facteurs comportementaux sur lesquels on peut agir, il faut le répéter.
Voilà.
Et parce qu'en agissant dessus, on diminue son risque de faire un cancer.
Tout à fait. Ben, je pense que ce sera un bon mot de la fin.
Voilà. Oui. En tous les cas, merci pour votre invitation.
Oh, ben merci. Hein.
Et je salue tous nos auditeurs et auditrices et les remercie encore si c'est des donateurs notamment.
Voilà. Et puis les auditeurs aussi, hein, vous avez entendu, messieurs, hein, voilà, c'est le moment de prendre soin un petit peu de vous.
Hein. Et voilà.
Voilà. Et puis ça repose pas toujours sur le dos de madame. Non. Vous devez aussi vous occuper de votre santé. C'est comme ça.
Prendre soin de soi, c'est important.
Ben oui, bien sûr. Ben merci beaucoup Philippe d'être venu nous voir. Et puis bon, à bientôt pour une nouvelle couleur, un nouveau cancer.
Merci à vous. La prochaine étape, c'est le dry January.
Ah oui. Voilà. C'est ça.
C'est le sevrage de l'alcool.
C'est ça. Et bien décidément, on se bat contre beaucoup d'ennemis ici.
Oui.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.